Chapitre 7. La place Saint-Jean est située au milieu d'une rue appelée Grande Narette dans sa partie supérieure et Petite Narette dans l'inférieure. En Berry, le mot Narette exprime la même situation de terrain que le mot génois Salita, c'est-à-dire une rue en pente roide. La Narette est très rapide de la place Saint-Jean à la porte Villatte. La maison du vieux monsieur Hochon est en face de celle où demeurait Jean-Jacques Rouget. Souvent, on voyait, par celle des fenêtres de la salle où se tenait Madame Hochon, ce qui se passait chez le père Rouget, et vice-versa, quand les rideaux étaient tirés ou que les portes restaient ouvertes. La maison de Monsieur Hochon ressemble tant à celle de Rouget que ces deux édifices furent sans doute bâtis par le même architecte. Hochon, jadis receveur d'État à Celles en Berry, né d'ailleurs à Issoudun, était revenu s'y marier avec la sœur du subdélégué, le galant Lousteau, en échangeant sa place de Celles contre la recette d'Issoudun. Déjà retiré des affaires en 1786, il évita les orages de la Révolution, au principe de laquelle il adhéra d'ailleurs pleinement, comme tous les honnêtes gens qui hurlent avec les vainqueurs. Monsieur Hochon ne volait pas sa réputation de grand avare, mais ne serait-ce pas s'exposer à des redites que de le peindre. Un des traits d'avarice qui le rendait célèbre suffira sans doute pour vous expliquer Monsieur Hochon tout entier. Lors du mariage de sa fille, alors morte, et qui épousait un Borniche, il fallut donner à dîner à la famille Borniche. Le prétendu, qui devait hériter d'une grande fortune, mourut de chagrin d'avoir fait de mauvaises affaires et surtout du refus de ses pères et mères qui ne voulurent pas l'aider. Ces vieux Borniches vivaient encore en ce moment, heureux d'avoir vu M. Hochon se chargeant de la tutelle à cause de la dot de sa fille qu'il se fit fort de sauver. Le jour de la signature du contrat, les grands-parents des deux familles étaient réunis dans la salle, les Hochons d'un côté, les Borniches de l'autre, tous endimanchés. Au milieu de la lecture du contrat que faisait gravement le jeune notaire Héron, la cuisinière entre et demande à M. Hochon de la ficelle pour ficeler une dinde, partie essentielle du repas. L'ancien receveur d'État tire du fond de la poche de sa redingote un bout de ficelle, qui sans doute avait déjà servi à quelques paquets, et il le donna. Mais avant que la servante eût atteint la porte, il lui cria « Gritte, tu me le rendras !» Gritte est en Berry l'abréviation usitée de Marguerite. Vous comprenez dès lors, et M. Hochon et la plaisanterie faite par la ville sur cette famille composée du père, de la mère et de trois enfants, les cinq Hochons. D'année en année, le vieil Hochon était devenu plus vétilleux, plus soigneux, et il avait en ce moment 85 ans. Il appartenait à ce genre d'homme qui se baisse au milieu d'une rue par une conversation animée et qui ramasse une épingle en disant « Voilà la journée d'une femme et qui pique l'épingle au carman de leur manche. » Il se plaignait très bien de la mauvaise fabrication des bras modernes, en faisant observer que sa redingote ne lui avait duré que 10 ans. Grand, sec, maigre, atteint jaune, parlant peu, lisant peu, ne se fatiguant point, observateur des formes comme un oriental, il maintenait au logis un régime d'une grande sobriété, mesurant le boire et le manger à sa famille, d'ailleurs assez nombreuse, et composée de sa femme, née Lousteau, de son petit-fils Baruch et de sa sœur Adolphine, héritier des vieux Borniches, enfin de son autre petit-fils, François Hochon. Hochon, son fils aîné, pris en 1813 par cette réquisition d'enfants de famille, échappés à la conscription et appelés les gardes d'honneur, avait péri au combat d'Hanau. Cet héritier présomptif avait épousé de très bonne heure une femme riche, afin de ne pas être repris par une conscription quelconque. Mais alors, il mangea toute sa fortune en prévoyant sa faim. Sa femme, qui suivit de loin l'armée française, mourut à Strasbourg en 1814, y laissant des dettes que le vieil Hochon ne paya point, en opposant aux créanciers cet axiome de l'ancienne jurisprudence « Les femmes sont des mineurs ». On pouvait donc toujours dire les cinq cochons, puisque cette maison se composait encore de trois petits-enfants et les deux grands-parents. Aussi la plaisanterie durait-elle toujours, car aucune plaisanterie ne vieillit en province. Gritte, alors âgée de 60 ans, suffisait à tout. La maison, quoique vaste, avait peu de mobilier. Néanmoins, on pouvait très bien loger Joseph et Madame Bridau dans deux chambres au deuxième étage. Le vieil Hochon se repentit alors d'y avoir conservé deux lits accompagnés chacun d'un vieux fauteuil en bois naturel égardis en tapisserie, d'une table en noyer sur laquelle figurait un pot à eau du genre dit « gueulard » dans sa cuvette bornée de bleu. Le vieillard mettait sa récolte de pommes et de poires d'hiver, de nèfles et de coings, sur de la paille, dans ses deux chambres, où dansaient les rats et les souris. Aussi exhalait-elle une odeur de fruits et de souris. Madame Hochon y fit tout nettoyer. Le papier décollé par place fut recollé au moyen de pain à cacheter. Elle orna les fenêtres de petits rideaux qu'elle tailla dans de vieux fourreaux de mousseline à elle. Puis, sur le refus de son mari d'acheter le petit tapis en lisière, elle donna sa descente de lit à sa petite Agathe, en disant de cette mère de 47 ans sonnée « Pauvre petite !» Madame Hochon emprunta deux tables de nuit au Borniche et loua très audacieusement chez un fripier, le voisin de la cognette, deux vieilles commodes à poignées de cuivre. Elle conservait deux paires de flambeaux en bois précieux, tournés par son propre père qui avait la manie du tour. De 1770 à 1780, ce fut un ton chez les gens riches d'apprendre un métier, et M. Lousteau, le père, ancien premier commis des aides, fut tourneur comme Louis XVI fut serrurier. Ces flambeaux avaient pour garniture des cercles en racines de rosiers, de pêchers, d'abricotiers. Madame Hochon risqua ces précieuses reliques. Ces préparatifs et ce sacrifice redoublèrent la gravité de M. Hochon, qui ne croyait pas encore à l'arrivée des Bridau. Le matin même de cette journée illustrée par le tour fait à Fario, Madame Hochon dit après le déjeuner à son mari « J'espère, Hochon, que vous recevrez comme il faut Madame Bridau, ma filleule. » Puis après s'être assurée que ses petits-enfants étaient partis, elle ajouta « Je suis maîtresse de mon bien, ne me craignez pas dédommager Agathe dans mon testament de quelque mauvais accueil. » « Croyez-vous, madame, répondit Hochon d'une voix douce, qu'à mon âge, je ne connaisse pas la civilité puérile et honnête. » « Vous savez bien ce que je veux dire, vieux sournois. Soyez aimable pour nos hôtes et souvenez-vous combien j'aime Agathe. Oh, vous aimiez aussi Maxence Gilet, qui va dévorer une succession due à votre chère Agathe. Oh, vous avez réchauffé là un serpent dans votre sein. Mais après tout, l'argent des Rouget devait appartenir à un Lousteau quelconque. » Après cette allusion à la naissance présumée d'Agathe et de Max, Hochon voulut sortir, mais la vieille Madame Hochon, femme encore droite et sèche, coiffée d'un bonnet rond à coque et poudrée, ayant une jupe de taffetas-gorge de pigeon à manches justes et les pieds dans des mules, posa sa tabatière sur sa petite table et dit « En vérité, mais comment un homme d'esprit comme vous, monsieur Hochon, peut-il répéter des niaiseries qui, malheureusement, ont coûté le repos à ma pauvre amie et la fortune de son père à ma pauvre filleule. Max Gillet n'est pas le fils de mon frère, à qui j'ai bien conseillé dans le temps d'épargner ses écus. Enfin, vous savez aussi bien que moi que Madame Rouget était la vertu même. Et la fille est digne de la mère, car elle me paraît bien bête. Après avoir perdu toute sa fortune, elle a si bien élevé ses enfants, qu'en voilà en prison, sous le coup d'un procès criminel à la cour des pairs, pour le fait d'une conspiration à la Berton. Quant à l'autre, il est dans une situation pire, il est peintre. Si vos protégés restent d'ici jusqu'à ce qu'ils aient dépêtré cet imbécile de Rouget des grilles de la rabouilleuse et le gilet, nous mangerons plus d'un millot de sel avec eux. Assez, monsieur Hochon. Souhaitez qu'ils en tirent pied ou elle. Monsieur Hochon prit son chapeau, sa canne à pomme d'ivoire, et sortit pétrifié par cette terrible phrase, car il ne croyait pas à tant de résolution chez sa femme. Madame Hochon, elle, prit son livre de prière pour lire l'ordinaire de la messe, car son grand âge l'empêchait d'aller tous les jours à l'église. Elle avait de la peine à s'y rendre les dimanches et les jours fériés. Depuis qu'elle avait reçu la réponse d'Agathe, elle ajoutait à ses prières habituelles une prière pour supplier Dieu de dessiller les yeux à Jean-Jacques Rouget, de bénir Agathe et de faire réussir l'entreprise à laquelle elle l'avait poussée. En se cachant de ses deux petits-enfants à qui elle reprochait d'être des parpaillots, elle avait prié le curé de dire, pour ce succès, des messes pendant une neuvaine accomplie par sa petite fille Adolphine Borniche, qui s'acquittait des prières à l'église par procuration. Adolphine, alors âgée de 18 ans, et qui depuis 7 ans travaillait aux côtés de sa grand-mère dans cette froide maison à mœurs méthodiques et monotones, fit d'autant plus volontiers la neuvaine qu'elle souhaitait inspirer quelques sentiments à Joseph Bridau, cet artiste incompris par M. Hochon, et auquel elle prenait le plus vif intérêt et à cause des monstruosités que son grand-père prêtait à ce jeune Parisien. Les vieillards, les gens sages, la tête de la ville, les pères de famille approuvaient d'ailleurs la conduite de Madame Hochon, et leurs vœux en faveur de sa filleule et de ses enfants étaient d'accord avec le mépris secret que leur inspirait depuis longtemps la conduite de Maxence Gillet. Ainsi, la nouvelle de l'arrivée de la sœur et du neveu du père Rouget produisit deux partis dans Issoudun. Celui de la haute et vieille bourgeoisie, qui devait se contenter de faire des vœux et de regarder les événements sans y aider, et celui des chevaliers de la désœuvrance et des partisans de Max, qui malheureusement étaient capables de commettre bien des malices à l'encontre des Parisiens. Ce jour-là donc, Agathe et Joseph débarquèrent sur la place Misère, au bureau des messageries, à 3 heures. Quoique fatiguée, Madame Bridau se sentit rajeunie à l'aspect de son pays natal, où elle reprenait à chaque pas ses souvenirs et ses impressions de jeunesse. Dans les conditions où se trouvait alors la ville d'Issoudun, l'arrivée des Parisiens fut su dans toute la ville à la fois en 10 minutes. Madame Hochon alla sur le pas de sa porte pour recevoir sa filleule et l'embrassa comme si c'eût été sa fille. Après avoir parcouru pendant 72 ans une carrière à la fois vide et monotone, où, en se retournant, elle comptait les cercueils de ses 3 enfants, morts tous malheureux, elle s'était faite une sorte de maternité factice pour une jeune personne qu'elle avait eue, selon son expression, dans ses poches pendant 16 ans. Dans les ténèbres de la province, elle avait caressé cette vieille amitié, cette enfance et ses souvenirs, comme si Agathe eût été présente. Aussi s'était-elle passionnée pour les intérêts des Bridau. Agathe fut menée en triomphe dans la salle, où le digne M. Hochon resta froid comme un four miné. Voilà, monsieur Hochon, comment le trouves-tu? Dit la marraine à sa filleule. Mais absolument comme quand je l'ai quitté, dit la parisienne. On voit que vous venez de Paris, vous êtes complimenteuse, fit le vieillard. Les présentations eurent lieu. Celle du petit Baruch Borniche, grand jeune homme de 22 ans, celle du petit François Hochon, âgé de 24 ans, et celle de la petite Adolphine, qui rougissait, ne savait que faire de ses bras et surtout de ses yeux. Car elle ne voulait pas avoir l'air de regarder Joseph Bridau, curieusement observé par les deux jeunes gens et par le vieux Hochon, mais à des points de vue différents. L'avare se disait « Il sort de l'hôpital, il doit avoir faim comme un convalescent. » Les deux jeunes gens se disaient « Quel brigand, quelle tête il nous donnera bien du fil à retordre. » « Voilà mon fils le peintre, mon bon Joseph, » dit enfin Agathe en montrant l'artiste. Il y eut dans l'accent du mot « bon » un effort où se révélait tout le cœur d'Agathe qui pensait à la prison du Luxembourg. « Il a l'air malade, » s'écria Madame Hochon, « il ne te ressemble pas. »« Non, madame, » reprit Joseph avec la brutalité naïveté de l'artiste, « je ressemble à mon père, et on l'est encore. » Madame Hochon serra la main d'Agathe qu'elle tenait et lui jeta un regard. Ce geste, ce regard, voulait dire « Ah, je conçois bien, mon enfant, que tu lui préfères ce mauvais sujet de Philippe. » « Je n'ai jamais vu votre père, mon cher enfant, » répondit à haute voix Madame Hochon. « Mais il vous suffit d'être le fils de votre mère pour que je vous aime. D'ailleurs, vous avez du talent, à ce que m'écrivait feu Madame Descoings, la seule de la maison qui me donna de vos nouvelles dans les derniers temps. »« Du talent, » fit l'artiste, « pas encore, mais avec le temps et la patience, peut-être pourrais-je gagner à la fois gloire et fortune. »« En peignant ?» dit M. Hochon avec une profonde ironie. « Allons, Adolphine, » dit Mme Hochon, « va voir au dîner. »« Ma mère, » dit Joseph, « je vais faire placer vos malles qui arrivent. »« Hochon, montre les chambres à M. Bridau, » dit la grand-mère à François. Comme le dîner se servait à 4 heures et qu'il était 3h30, Baruch alla dans la ville y donner des nouvelles de la famille Bridau, peindre la toilette d'Agathe et surtout Joseph, dont la figure ravagée, maladive et si caractérisée ressemblait au portrait idéal que l'on se fait d'un brigand. Dans tous les ménages ce jour-là, Joseph défraya la conversation. Il paraît que la sœur du père Rouget a eu pendant sa grossesse un regard de quelque singe, disait-on. Son fils ressemble à un macaque. Il a une figure de brigand et des yeux de basilic. On dit qu'il est curieux à voir, effrayant. Oh, tous les artistes à Paris sont comme ça. Ils sont méchants, comme des ânes rouges et malicieux comme des singes. Oh, c'est même dans leur état. Je viens de voir M. Bossier, qui dit qu'il ne voudrait pas le rencontrer la nuit au coin d'un bois. Il l'a vu à la diligence. Il a dans la figure des Salières comme un cheval, et il fait des gestes de fou. Ce garçon-là paraît être capable de tout. C'est lui qui peut être cause que son frère, qui était un grand bel homme, a mal tourné. La pauvre Madame Bridau n'a pas l'air d'être heureuse avec lui. Si nous profitions de ce qu'il est ici pour faire tirer nos portraits. » Il résulta de ces opinions semées comme par le vent dans la ville une excessive curiosité. Tous ceux qui avaient le droit d'aller voir les Hochon se promirent de leur faire visite le soir même pour examiner les Parisiens. L'arrivée de ces deux personnages équivalait dans une ville stagnante comme Issoudun à la solive tombée au milieu des grenouilles. Après avoir mis les effets de sa mère et les siens dans les deux chambres en mansarde et les avoir examinés, Joseph observa cette maison silencieuse où les murs, l'escalier, les boiseries étaient sans ornement et distillaient le froid, où il n'y avait en tout que le strict nécessaire. Il fut alors saisi de cette brusque transition du poétique Paris à la muette et sèche province. Mais quand, en descendant, il aperçut M. Hochon coupant lui-même pour chacun les tranches de pain, il comprit pour la première fois de sa vie Harpagon de Molière. « Nous aurions mieux fait d'aller à l'auberge, » se dit-il en lui-même. L'aspect du dîner confirma ses appréhensions. Après une soupe dont le bouillon clair annonçait qu'on tenait plus à la quantité qu'à la qualité, on servit un bouilli triomphalement entouré de persil. Les légumes mis à part dans un plat comptaient dans l'ordonnance du repas. Ce bouilli trônait au milieu de la table, accompagné de trois autres plats. Des œufs durs sur de l'oseille placés en face des légumes, puis une salade tout accommodée à l'huile de noix, en face de petits pots de crème où la vanille était remplacée par de l'avoine brûlée et qui ressemble à la vanille comme le café de chicorée ressemble au mocha. Du beurre et des radis dans deux plateaux aux deux extrémités, des radis noirs et des cornichons complétaient ce service qui eut l'approbation de Madame Hochon. La bonne vieille fit un signe de tête en femme heureuse de voir que son mari, pour le premier jour au moins, avait bien fait les choses. Le vieillard répondit par une œillade et un mouvement d'épaule facile à traduire « Voilà les folies que vous me faites faire !» Immédiatement après avoir été comme disséqué par M. Hochon en tranches semblables à des semelles d'escarpins, le bouilli fut remplacé par trois pigeons. Le vin du cru fut du vin de 1811. Par un conseil de sa grand-mère, Adolphine avait orné de deux bouquets les bouts de la table. « À la guerre comme à la guerre !» pensa l'artiste en contemplant la table. Et il se mit à manger en homme qui avait déjeuné à Vierzon à 6 heures du matin d'une exécrable tasse de café. Quand Joseph eut avalé son pain et qu'il en redemanda, M. Hochon se leva, chercha lentement une clé dans le fond de sa poche de sa redingote, ouvrit une armoire derrière lui, brandit le chanteau d'un pain de 12 livres, en coupa cérémonieusement une autre rouelle, la fendit en deux, la posa sur une assiette et passa l'assiette à travers la table au jeune peintre, avec le silence et le sang-froid d'un vieux soldat qui se dit au commencement d'une bataille « Allons, aujourd'hui je puis être tué. » Joseph prit la moitié de cette rouelle et comprit qu'il ne devait plus redemander de pain. Aucun membre de la famille ne s'étonna de cette scène si monstrueuse pour Joseph. La conversation allait son train. Agathe apprit que la maison où elle était née, la maison de son père, avant qu'il eût hérité de celle des Descoings, avait été achetée par les Borniches, et elle manifesta le désir de la revoir. « Oh, sans doute, » lui dit sa marraine, « les Borniches viendront ce soir, car nous aurons toute la ville qui voudra vous examiner, » dit-elle à Joseph, « et ils vous inviteront à venir chez eux. » La servante apporta pour dessert le fameux fromage mou de la Touraine et du Berry, fait avec du lait de chèvre, et qui reproduit si bien en niel les dessins des feuilles de vigne sur lesquelles on le sert qu'il aurait dû faire inventer la gravure en Touraine. De chaque côté de ces petits fromages, Gritte mit avec une sorte de cérémonie des noix et des biscuits inamovibles. Allons donc, Gritte, du fruit, dit madame Hochon. Mais madame, il n'y en a plus de pourri, répondit Gritte. Joseph partit d'un éclat de rire, comme s'il était dans son atelier avec des camarades, car il comprit tout à coup que la précaution de commencer par les fruits attaqués était dégénérée en habitude. Bah, nous les mangerons tout de même, répondit-il avec l'entrain de gaieté d'un homme qui prend son parti. Mais va donc, monsieur Hochon, s'écria la vieille femme. Monsieur Hochon, très scandalisé du mot de l'artiste, rapporta des pêches de vigne, des poires et des prunes de Sainte-Catherine. Adolphine va nous cueillir du raisin, dit madame Hochon à sa petite fille. Joseph regarda les deux jeunes gens d'un air qui disait « C'est à ce régime-là que vous devez vos figures prospères. » Baruch comprit ce coup d'œil incisif et se prit à sourire car son cousin Hochon et lui s'étaient montrés discrets. La viologie était assez indifférente à des gens qui soupaient trois fois par semaine chez la cognette. D'ailleurs, avant le dîner, Baruch avait reçu l'avis que le grand maître convoquait l'ordre au complet à minuit pour le traiter avec magnificence en demandant un coup de main. Ce repas de bienvenue offert à ses hôtes par le vieil Hochon explique combien les festoiements nocturnes chez la cognette étaient nécessaires à l'alimentation de ces deux grands garçons bien endentés qui n'en manquaient pas un. « Nous prendrons la liqueur au salon, » dit madame Hochon en se levant et demandant par un geste le bras de Joseph. En sortant la première, elle put dire au peintre « Eh bien, mon pauvre garçon, ce dîner ne te donnera pas d'indigestion, mais j'ai eu bien de la peine à te l'obtenir. Tu feras un carême ici, tu ne mangeras que ce qu'il faut pour vivre et voilà tout. » Ainsi, prends la table en patience. » La bonhomie de cette excellente vieille qui se faisait ainsi son procès à elle-même plut à l'artiste. J'ai vécu 50 ans avec cet homme-là, sans avoir entendu 20 écus battant dans ma bourse. S'il ne s'agissait pas de vous sauver une fortune, je ne vous serais jamais attiré, ta mère et toi, dans ma prison. » « Mais comment vivez-vous encore ?» dit naïvement le peintre avec cette gaieté qui n'abandonne jamais les artistes français. « Ah, voilà, reprit-elle, je prie. » Joseph eut un léger frisson en entendant ce mot qui lui grandissait tellement, cette vieille femme, qu'il se recula de 3 pas pour contempler sa figure. Il la trouva radieuse, empreinte d'une sérénité si tendre qu'il lui dit « Je ferai votre portrait. »« Oh non, 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 » dit-elle, « je me suis trop ennuyée sur la terre pour vous voir y rester en peinture. » Et en disant gaiement cette triste parole, elle tirait d'une armoire une fiole contenant du cassis, une liqueur de ménage faite par elle, car elle en avait eu la recette de ces 6 célèbres religieuses auxquelles on doit le gâteau d'Issoudun, l'une des plus grandes créations de la confiture française, et qu'aucun chef d'office, cuisinier, pâtissier et confiturier n'a pu contrefaire. Monsieur de Rivière, ambassadeur à Constantinople, en demandait tous les ans d'énormes quantités pour le sérail de Mahmoud. Adolphine tenait une assiette de laque pleine de ces vieux petits verres à pans gravés et dont le bord est doré. Puis, à mesure que sa grand-mère en remplissait un, elle allait l'offrir. « À la ronde, mon père en aura !» s'écria gaiement Agathe, à qui cette immuable cérémonie rappela sa jeunesse. « Hochon, va tout à l'heure à sa société lire les journaux, alors nous aurons un petit moment à nous, lui dit tout bas la vieille femme. En effet, 10 minutes après, les trois femmes et Joseph se trouvèrent seuls dans ce salon dont le parquet n'était jamais frotté, mais seulement balayé, dont les tapisseries encadrées dans des cadres de chaînes à gorge et à moulures, dont tout le mobilier simple et presque sombre apparut à Madame Bridau dans l'état où elle l'avait laissé. La monarchie, la révolution, l'empire, la restauration, qui respectèrent peu de choses, avaient respecté cette salle où leurs splendeurs et leurs désastres ne laissaient pas la moindre trace. Ah, ma marraine, ma vie a été cruellement agitée en comparaison de la vôtre, s'écria Madame Bridau, surprise de retrouver jusqu'à un serein qu'elle avait connu vivant, empaillé sur la cheminée, entre la vieille pendule, les vieux bras de cuivre et les flambeaux d'argent. Oh, mon enfant, répondit la vieille femme, les orages sont dans le cœur. Plus nécessaire et grande fut la résignation, plus nous avons eu de lutte avec nous-mêmes. Mais ne parlons pas de moi, parlons de vos affaires. Vous êtes précisément en face de l'ennemi, reprit-elle, en montrant la salle de la maison Rouget. Il se met à table, dit Adolphine. Cette jeune fille, quasi recluse, regardait toujours par les fenêtres, espérant saisir quelque lumière sur les énormités imputées à Maxence Gilet, à la Rabouilleuse, à Jean-Jacques, et dont quelques mots arrivaient à ses oreilles quand on la renvoyait pour parler d'eux. La vieille dame dit à sa petite fille de la laisser seule avec M. et Mme Bridau jusqu'à ce qu'une visite arrivât. Car, dit-elle en regardant les deux Parisiens, je sais mon Issoudun par cœur. Ah, nous aurons ce soir 10 à 12 fournées de curieux. À peine Madame Hochon avait-elle pu raconter aux deux Parisiens les événements et les détails relatifs à l'étonnant empire conquis sur Jean-Jacques Rouget par la Rabouilleuse et par Maxence Gilet, sans prendre la méthode synthétique avec laquelle ils viennent d'être présentés, mais en y joignant les 1000 commentaires, les descriptions et les hypothèses dont ils étaient ornés par les bonnes et par les méchantes langues de la ville, qu'Adolphine vint annoncer les Borniches, les Bossiers, les Lousteau-Prangins, les Fichets, les Godet-Hérault, en tout 14 personnes qui se dessinaient dans le lointain. « Vous voyez, ma petite, dit en terminant la vieille dame, que ce n'est pas une petite affaire que de retirer cette fortune de la gueule du loup. » Cela me semble si difficile avec un gredin comme vous venez de nous le dépeindre, et une commère comme cette luronne-là, que ce doit être impossible, répondit Joseph. Il nous faudrait rester à Issoudun au moins une année pour combattre leur influence et renverser leur empire sur mon oncle. La fortune ne vaut pas ces tracas-là, sans compter qu'il faut s'y déshonorer en faisant 1000 bassesses. Ma mère n'a que 15 jours de congé. Sa place est sûre et ne doit pas la compromettre. Moi, j'ai dans le mois d'octobre des travaux importants que Schindler m'a procurés chez un pair de France. Et voyez-vous, madame, ma fortune à moi est dans mes pinceaux. Ce discours fut accueilli par une profonde stupéfaction. Madame Hochon, quoique supérieure relativement à la ville où elle vivait, ne croyait pas à la peinture. Elle regarda sa filleule et lui serra de nouveau la main. « Ce Maxence est le second homme de Philippe, dit Joseph à l'oreille de sa mère, mais avec plus de politique, avec plus de tenue que n'en a Philippe. « Allons, madame, s'écria-t-il tout haut, nous ne contrarions pas longtemps Monsieur Mochon par notre séjour ici. Oh, « Mais vous êtes jeune, vous ne savez rien du monde, dit la vieille dame. « En 15 jours, avec un peu de politique, on peut obtenir quelques résultats. Écoutez mes conseils et conduisez-vous d'après mes avis. Oh, bien volontiers, répondit Joseph. Je me sens d'une incapacité mirobolante en fait de politique domestique. Je ne sais pas, par exemple, ce que Desroches lui-même nous dirait de faire si demain mon oncle refuse de nous voir. Mesdames Borniche, Godet, Robossier, Lousteau, Prangin et Fichet, ornés de leurs époux, entrèrent. Après les compliments d'usage, quand ces 14 personnes furent assises, Madame Hochon ne put se dispenser de leur présenter sa filleule Agathe et Joseph. Joseph resta sur un fauteuil occupé sournoisement à étudier les 60 figures qui, de 5h30 à 9h, vinrent poser devant lui gratis, comme il le dit à sa mère. L'attitude de Joseph pendant cette soirée en face des patriciens d'Issoudun ne fit pas changer l'opinion de la petite ville sur son compte. Chacun s'en alla saisi de ses regards moqueurs, inquiet de ses sourires ou effrayé de cette figure sinistre pour des gens qui ne savaient pas reconnaître l'étrangeté du génie. À 10h, quand tout le monde se coucha, la marraine garda sa filleule dans sa chambre jusqu'à minuit. Sûre d'être seule, ces deux femmes, en se confiant les chagrins de leur vie, échangèrent alors leurs douleurs. En reconnaissant l'immensité du désert où s'était perdue la force d'une belle âme inconnue, en écoutant les derniers retentissements de cet esprit dont la destinée fut manquée, en apprenant les souffrances de ce cœur essentiellement généreux et charitable dont la générosité, dont la charité ne s'était jamais exercée, Agathe ne se regarda plus comme la plus malheureuse, en voyant combien de distractions et de petits bonheurs l'existence parisienne avait apporté aux amertumes envoyées par Dieu. « Mais vous qui êtes pieuse, ma marraine, expliquez-moi mes fautes et dites-moi ce que Dieu punit en moi. » « Oh, il nous prépare, mon enfant, répondit la vieille dame, au moment où nous minuit sonna. » À minuit, les chevaliers de la désœuvrance se rendaient un à un comme des ombres sous les arbres du boulevard Baron et s'y promenaient en causant à voix basse. « Que va-t-on faire ?» fut la première parole de chacun en s'abordant. « Oh, je crois, dit François, que l'intention de Max est tout bonnement de nous régaler. »« Non, oh, les circonstances sont graves pour la rabouilleuse et pour lui. »« Sans doute il aura conçu quelques farces contre les Parisiens. »« Mais ce serait assez gentil de les renvoyer. »« Mon grand-père, dit Baruche, déjà très effrayé d'avoir deux bouches de plus dans la place, » saisirait avec joie un prétexte. Eh bien, chevalier, s'écria doucement Max en arrivant, pourquoi regarder les étoiles? Elles ne nous tireront pas du kirsch. Allons, à la cognette, à la cognette, à la cognette. Ce cri poussé en commun produisit une clameur horrible qui passa sur la ville comme un hurra de troupes à l'assaut. Puis le plus profond silence régna. Le lendemain, plus d'une personne dut dire à sa voisine « Avez-vous entendu cette nuit, vers 1h, des cris affreux ? Oh, j'ai cru que le feu était quelque part !» Un souper digne de la cognette égaya les regards des 22 convives, car l'ordre fut au grand complet. À 2h, au moment où l'on commençait à siroter, mot du dictionnaire de la désœuvrance équipa assez bien à l'action de boire à petites gorgées, en dégustant le vin, Max prit la parole. « Mes chers enfants, ce matin, à propos du tour mémorable que nous avons fait avec la charrette de Fario, votre grand maître a été si fortement atteint dans son honneur par ce vil marchand de grains et de plus espagnol. Oh, les pontons, que j'ai résolu de faire sentir le poids de ma vengeance à ce drôle, tout en restant dans les conditions de nos amusements. Après y avoir réfléchi pendant toute la journée, J'ai trouvé le moyen de mettre à exécution une excellente farce, une farce capable de le rendre fou. Tout en vengeant l'ordre atteint en ma personne, nous nourrirons des animaux vénérés par les Égyptiens, de petites bêtes qui sont après tout les créatures de Dieu et que les hommes persécutent injustement. Le bien est fils du mal et le mal est fils du bien. Telle est la loi suprême. Je vous ordonne donc à tous, sous peine de déplaire à votre très humble grand maître, de vous procurer le plus clandestinement possible chacun 20 rats ou 20 rates pleines, si Dieu le permet. Ayez réuni votre contingent dans l'espace de 3 jours. Si vous pouvez en prendre davantage, le surplus sera bien reçu. Gardez ces intéressants rongeurs sans leur rien donner, car il est essentiel que ces chères petites bêtes aient une faim dévorante. Remarquez que j'accepte pour rats les souris et les mulots. Si nous multiplions 22 par 20, nous en aurons 400 et tant de temps complices qui, lâchés dans la vieille église des Capucins où Fario a mis tous les grains qu'il vient d'acheter, en consommant une certaine quantité. Mais soyons agiles. Fario doit livrer une forte partie de grains dans 8 jours. Or, je veux que mon Espagnol, qui voyage aux environs pour ses affaires, trouve un effroyable déchet. « Messieurs, je n'ai pas le mérite de cette invention, » dit-il en apercevant les marques d'une admiration générale. « Rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ceci est une contrefaçon des renards de Samson dans la Bible. » Mais Samson fut incendiaire et conséquemment peu philanthrope. Tandis que, semblables aux Brahmes, nous sommes les protecteurs des races persécutées. Mademoiselle Flore Brasier a déjà rendu toute cette souricière, et Kouski, mon bras droit, est à la chasse des mulots. J'ai dit. Oh, je sais, dit le fils Godet, vous trouvez un animal qui vaudra 40 rats à lui seul. Quoi? Un écureuil.
Ah, et moi? « J'offre un petit singe, lequel se grisera de blé, » fit un novice.
« Mauvais, » fit Max, « on saurait d'où viennent ces animaux. »«
Ben, on peut y amener pendant la nuit, » dit le fils Bossier, « un pigeon, pria chacun les pigeonniers des fermes voisines. En le faisant passer par une trouée ménagée dans la couverture, il y aura bientôt plusieurs milliers de pigeons. »
Donc, pendant une semaine, le magasin à Fario est à l'ordre de nuit, s'écria Gilet en souriant au grand Bossier fils. Vous savez qu'on se lève de bonne heure à Saint-Paterne, que personne n'y aille sans avoir mis au rebours les semelles de ses chaussons de lisière. Le chevalier Bossier, inventeur des pigeons, a la direction. Quant à moi, je prendrai le soin de signer mon nom dans l'état de blé. Soyez-vous les maréchaux des logis de messieurs les rats. Si le garçon de magasin couche au Capucin, il faudra le faire griser par des camarades et adroitement, afin de l'emmener loin du théâtre de cette orgie offerte aux animaux rongeurs.
« Mais tu ne nous dis rien des Parisiens ?» demanda le fils Godet.
« Oh, oh, fit Max, il faut les étudier. Néanmoins, j'offre mon beau fusil de chasse qui vient de l'empereur, un chef-d'œuvre de la manufacture de Versailles, il vaut 2 000 francs. À quiconque trouvera les moyens de jouer un tour à ces Parisiens et qui les mettent si mal avec monsieur et madame Mochon, qu'ils soient renvoyés par ces 2 vieillards ou qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes, sans bien entendu nuire par trop aux ancêtres de mes 2 amis Maurice et François.
Ça va, j'y songerai, dit le fils Godet qui aimait la chasse à la passion.
Si l'auteur de la farce veut pas mon fusil, il aura mon cheval, fit observer Maxence.
Depuis ce souper, 20 cerveaux se mirent à la torture pour ourdir une trame contre Agathe et son fils en se conformant à ce programme. Mais le diable seul ou le hasard pouvait réussir, tant les conditions imposées rendaient la chose difficile.
Le lendemain matin, Agathe et Joseph descendirent un moment avant le second déjeuner, qui se faisait à 10 heures. On donnait le nom de premier déjeuner à une tasse de lait accompagnée d'une tartine de pain beurré qui se prenait au lit ou au sortir du lit. En attendant Madame Hochon, qui, malgré son âge, accomplissait minutieusement toutes les cérémonies que les duchesses du temps de Louis XV faisaient à leur toilette, Joseph vit sur la porte de la maison en face Jean-Jacques Rouget planté sur ses deux pieds. Il le montra naturellement à sa mère, qui ne put reconnaître son frère, tant il ressemblait si peu à ce qu'il était quand elle l'avait quitté. « Voilà votre frère !» dit Adolphine, qui donnait le bras à sa grand-mère. « Quel crétin !» s'écria Joseph. Agathe joignit les mains et leva les yeux au ciel. « Oh, dans quel état l'a-t-on mis ? Mon Dieu, est-ce là un homme de 57 ans ?» Elle voulut regarder attentivement son frère et vit derrière le vieillard Flore Brasier, coiffé en cheveux, laissant voir sous la gaze d'un fichu garni de dentelles un dos de neige et une poitrine éblouissante, soignée comme une courtisane riche, portant une robe à corset en grenadine, une étoffe de soie alors de mode, à manches dites à gigot, et terminée au poignet par des bracelets superbes. Une chaîne d'or ruisselait sur le corsage de la rabouilleuse, qui apportait à Jean-Jacques son bonnet de soie noire afin qu'il ne s'enrhumât pas. Une scène évidemment calculée. Voilà, s'écria Joseph, une belle femme. Et c'est rare. Elle est faite comme on dit à peindre. Quelle carnation! Oh, les beaux tons! Quel méplat, quelle rondeur et des épaules! « C'est une magnifique cariatide. Ce serait un fameux modèle pour une Vénus Titien. » Adolphine et Madame Hochon crurent entendre parler grec, mais Agathe, en arrière de son fils, leur fit un signe comme pour leur dire qu'elle était habituée à cet idiome. « Vous trouvez belle une fille qui vous enlève une fortune ?» dit Madame Hochon. « Ça ne l'empêche pas d'être un beau modèle, précisément assez grasse, sans que les hanches et les formes soient gâtées. »« Mais mon ami, tu n'es pas dans ton atelier, » dit Agathe, « et Adolphine est là. »« Ah, c'est vrai, j'ai tort. Mais aussi, depuis Paris jusqu'ici, sur toute la route, je n'ai vu que des guenons. »« Mais, ma chère marraine, » dit Agathe, « comment pourrais-je voir mon frère ? Car s'il est avec cette créature... »« Bah, dit Joseph, j'irai le voir, moi. Je ne le trouve plus si crétin du moment où il a de l'esprit de se réjouir les yeux par une Vénus du Titien. »« S'il n'était pas imbécile, » dit M. Hochon qui survint, « il se serait marié tranquillement. » Il aurait eu des enfants et vous n'auriez pas la chance d'avoir sa succession. Hein, quelque chose, malheur est bon. Votre fils a eu une bonne idée, il ira le premier rendre visite à son oncle, dit Madame Hochon. Il lui fera entendre que, si vous vous présentez, il doit être seul. Et vous froisserez, mademoiselle Brasier, dit Monsieur Hochon. Non, 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 madame, avalez cette douleur. Si vous n'avez pas la succession, tâchez d'avoir au moins un petit lait. Les Hochon n'étaient pas de force à lutter avec Maxence Gillet. Au milieu du déjeuner, le Polonais apporta, de la part de son maître, Monsieur Rouget, une lettre adressée à sa sœur, madame Brideau. Voici cette lettre que Madame Hochon fit lire à son mari. Ma chère sœur, j'apprends par des étrangers votre arrivée à Issoudun. Je devine le motif qui vous a fait préférer la maison de M. et Madame Hochon à la mienne. Mais si vous venez me voir, vous serez reçu chez moi comme vous devez l'être. Je serais allé le premier vous faire visite si ma santé ne me contraignait en ce moment à rester au logis. Je vous présente mes affectueux regrets. Je serais charmé de voir mon neveu que j'invite à dîner avec moi aujourd'hui. Car les jeunes gens sont moins susceptibles que les femmes sur la compagnie. Aussi me fera-t-il plaisir en venant, accompagné de messieurs Baru, Borniche et François Auchon. Votre affectionné frère, J.J. Rouget.
Dites que nous sommes à déjeuner et que Mme Brideau répondra tout à l'heure et que les invitations sont acceptées, dit M. Beauchamp à sa servante.
Et le vieillard se mit un doigt sur les lèvres pour imposer silence à tout le monde. Quand la porte de la rue fut fermée, M. Auchon, incapable de soupçonner l'amitié qui liait ses deux petits-fils à Maxence, jeta sur sa femme et sur Agathe un de ses plus fins regards.
Il a écrit cela comme je suis en état de donner 25 louis. C'est le soldat avec qui nous correspondrons.
Qu'est-ce que cela veut dire? Demanda Madame Auchon. N'importe, nous répondrons. Mais quant à vous, monsieur, ajouta-t-elle en regardant le peintre, « Allez-y, messie !»
La vieille dame s'arrêta sous un regard de son mari. En reconnaissant combien était vive l'amitié de sa femme pour Agathe, le vieil Auchon craignit de lui voir faire quelque lait à sa filleule, dans le cas où celle-ci perdrait toute la succession de Rouget. Quoique plus âgé de 15 ans que sa femme, cet avare espérait hériter d'elle et se voir un jour à la tête de tous les biens. Cette espérance était son idée fixe. Aussi Madame Auchon avait-elle bien deviné le moyen d'obtenir de son mari quelques concessions en le menaçant de faire un testament. Monsieur Auchon prit donc parti pour ses hôtes. Il s'agissait d'ailleurs d'une succession énorme. Et par un esprit de justice sociale, il voulait la voir aller aux héritiers naturels au lieu d'être pillé par des étrangers indignes d'estime. Enfin, plus tôt cette question serait vidée, plus tôt ses hôtes partiraient. Depuis que le combat entre les capteurs de la succession et les héritiers, jusqu'alors en projet dans l'esprit de sa femme, se réalisait, l'activité d'esprit de M. Auchon, endormi par la vie de province, se réveilla. Madame Auchon fut assez agréablement surprise quand, le matin même, elle s'aperçut à quelques mots d'affection dits par le vieil Auchon sur sa filleule que cet auxiliaire si compétent et si subtil était acquis au Brideau. Vers midi, les intelligences réunies de M. et Madame Auchon, d'Agathe et de Joseph, assez étonné de voir les deux vieillards si scrupuleux dans le choix de leurs mots, avait accouché de la réponse suivante, faite uniquement pour Flore et Maxence. Mon cher frère, si je suis resté 30 ans sans revenir ici, sans y entretenir de relations avec qui que ce soit, pas même avec vous, la faute en est non seulement aux étrangers et aux fausses idées que mon père avait conçues contre moi, mais encore au malheur et aussi au bonheur de ma vie à Paris. Car si Dieu fit la femme heureuse, il a bien frappé la mère. Vous n'ignorez point que mon fils, notre neveu Philippe, est sous le coup d'une accusation capitale à cause de son dévouement à l'empereur. Ainsi, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'une veuve, obligée pour vivre d'accepter un modique emploi dans un bureau de loterie, soit venue chercher des consolations et des secours auprès de ceux qui l'ont vue naître. L'état embrassé par celui de mes fils qui m'accompagne
est un de ceux qui veulent le plus de talent, le plus de sacrifices, le plus d'études avant d'offrir des résultats. La gloire y précède la fortune. N'est-ce pas vous dire que quand Joseph illustrera notre famille, il sera pauvre encore? Votre sœur, mon cher Jean-Jacques, aurait supporté silencieusement les effets de l'injustice paternelle. Mais pardonnez à la mère de vous rappeler que vous avez deux neveux, l'un qui portait les ordres de l'empereur à la bataille de Montereau, qui servait dans la garde impériale à Waterloo, et qui maintenant est en prison. L'autre, qui depuis l'âge de 13 ans est entraîné par la vocation dans une carrière difficile, mais glorieuse. Aussi vous remerciai-je de votre lettre, mon frère, avec une vive effusion de cœur, et pour mon compte et pour celui de Joseph, qui se rendra certainement à votre invitation. La maladie excuse tout, mon cher Jean-Jacques. J'irai donc vous voir chez vous. Une sœur est toujours bien chez son frère, quelle que soit la vie qu'il ait adoptée. Je vous embrasse avec tendresse, Agathe Rouget.
Voilà l'affaire engagée. Quand vous irez, dit M. Hochon à la Parisienne, vous pourrez lui parler nettement de ses neveux.
La lettre fut portée par Gritte, qui revint 10 minutes après, rendre compte à ses maîtres de tout ce qu'elle avait appris ou pu voir, selon l'usage de la province.
Madame, dit-elle, on a depuis hier soir approprié toute la maison que madame laissait.
Mais qui, madame? Demanda le vieil Hochon.
Ben, on appelle ainsi dans la maison de la rabouilleuse, répondit Gritte. Elle laissait la salle et tout ce qui regardait M. Rouget dans un état à faire pitié. Mais depuis hier, la maison est redevenue ce qu'elle était avant l'arrivée de M. Maxence. On s'y mirerait.
La Védie m'a raconté que Kouski est monté à cheval ce matin à 5 heures. Il est revenu sur les 9 heures apportant des provisions. Enfin, il y aura le meilleur dîner, un dîner comme pour l'archevêque de Bourges. On met les petits plats dans les grands et tout est par place dans la cuisine.
Je veux fêter mon neveu, qu'il dit le bonhomme en se faisant rendre compte de tout. Il paraît que les Rouget ont été très flattés de la lettre. Madame est venue me le dire. Oh, elle a fait une toilette. Je n'ai rien vu de plus beau, quoi. Madame a 2 diamants aux oreilles. 2 diamants de chacun 1000 écus, m'a dit la Védie. Et des dentelles, et des anneaux dans les doigts, et des bracelets que vous diriez une vraie châsse, et une robe de soie belle comme un devant d'hôtel. Pour l'or qu'elle m'a dit...
Oh, monsieur est charmé de savoir sa sœur, si bonne enfant, et j'espère qu'elle nous permettra de la fêter comme elle le mérite. Nous comptons sur la bonne opinion qu'elle aura de nous d'après l'accueil que nous ferons à son fils. Monsieur est très impatient de voir son neveu. Madame avait des petits souliers de satin noir et des bas. Oh non, c'est des merveilles! Il y a comme des fleurs dans la soie, et des trous que vous diriez une dentelle. On voit sa chair rose à travers. Enfin, elle est sur ses 51, avec un petit tablier si gentil devant elle, que la Védie m'a dit que ce tablier-là valait 2 années de nos gages.
Allons, il faut se ficeler, dit en souriant l'artiste.
Eh bien, à quoi penses-tu, monsieur Hochon? Dit la vieille dame quand Gritte fut partie.
Madame Hochon montrait à sa filleule son mari, la tête dans ses mains, le coude sur le bras de son fauteuil, et plongée dans ses réflexions.
Vous avez affaire à Maître Godin, dit le vieillard. Avec vos idées, jeune homme, ajouta-t-il en regardant Joseph, vous n'êtes pas de force à lutter contre un gaillard trempé comme les Maxence. Quoi que je vous dise, vous ferez des sottises.
Mais au moins racontez-moi bien ce soir tout ce que vous aurez vu, entendu et fait. Allez, à la grâce de Dieu. Tâchez de vous trouver seul avec votre oncle. Si malgré tout votre esprit vous n'y parvenez point, ce sera déjà quelques lumières sur leur plan. Mais si vous êtes à l'instant avec lui, seul, sans être écouté, dame, il faut lui tirer les vers du nez sur sa situation qui n'est pas heureuse et plaider la cause de votre mère.
À 4 heures, Joseph passa le détroit qui séparait la maison Hochon de la maison Rouget, cette espèce d'allée de tilleuls souffrants, longue de 200 pieds et large comme la grande Narette. Quand le neveu se présenta, Kouski, en bonne cirée, en pantalon de drap noir, en gilet blanc et en habit noir, le procéda pour l'annoncer. La table était déjà mise dans la salle, et Joseph, qui distingua facilement son oncle, alla droit à lui, l'embrassa, salua Flore et Maxence.
« Nous ne nous sommes point vus depuis que j'existe, mon cher oncle, » dit gaiement le peintre. « Mieux vaut tard que jamais. »
Vous êtes le bienvenu, mon ami, dit le vieillard en regardant son neveu d'un air hébété.
Madame, dit Joseph à Flore avec l'entrain d'un artiste, j'enviais ce matin à mon oncle le plaisir qu'il a de pouvoir vous admirer tous les jours.
N'est-ce pas, qu'elle est belle, dit le vieillard, dont les yeux ternis devinrent presque brillants.
« Belle à pouvoir servir de modèle à un peintre. »«
Mon neveu, dit le père Rouget, que Flore poussa par le coude, voici M. Maxence Gilet, un homme qui a servi l'empereur comme ton frère dans la garde impériale. »
Joseph se leva, s'inclina.
Monsieur, votre frère était dans les dragons, je crois, et moi j'étais dans les pousse-cailloux, dit Maxence.
À cheval ou à pied, dit Flore, on n'en risquait pas moins sa peau.
Joseph observait Max autant que Max observait Joseph. Max était mis comme les jeunes gens élégants se mettaient alors, car il se faisait habiller à Paris. Un pantalon de drap bleu de ciel, à gros plis très amples, faisait valoir ses pieds en ne laissant voir que le bout de sa botte ornée d'éperons. Sa taille était pincée par son gilet blanc à boutons d'or façonnés et lacée par derrière pour lui servir de ceinture. Ce gilet boutonné jusqu'au col dessinait bien sa large poitrine et son col en satin noir l'obligeait à tenir la tête haute à la façon des militaires. Il portait un petit habit noir très bien coupé. Une jolie chaîne d'or pendait de la poche de son gilet, où paraissait à peine une montre plate. Il jouait avec cette clé dite à criquet que Breguet venait d'inventer.
Ce garçon est très bien, se dit Joseph, en admirant comme peintre la figure vive, l'air de force et les yeux gris spirituels que Max tenait de son père, le gentilhomme.
Mon oncle doit être bien embêtant. Cette belle fille a cherché des compensations. Il faut ménage à trois. Ça se voit.
En ce moment, Baruch et François arrivèrent.
Vous n'êtes pas encore allé voir la tour d'Issoudun ? Demanda Flore à Joseph. Si vous vouliez faire une petite promenade en attendant le dîner, qui ne sera servi que dans 1 heure, nous vous montrerions la grande curiosité de la ville.
Volontiers, dit l'artiste, incapable d'apercevoir en ceci le moindre inconvénient.
Pendant que Flore alla mettre son chapeau, ses gants et son châle de cachemire, Joseph se leva soudain à la vue des tableaux, comme si quelque enchanteur l'eût touché de sa baguette.
Ah, mais vous avez des tableaux, mon oncle !
Dit-il en examinant celui qui l'avait frappé.
Oui, répondit le bonhomme, ça nous vient des coins qui, pendant la Révolution, ont acheté la défroque des maisons religieuses et des églises du Berry.
Joseph n'écoutait plus. Il admirait chaque tableau. « Magnifique !» s'écriait-il. « Oh, mais voilà une toile !»« Celui-là ne les gâtait pas. »« Allons de plus en plus fort, comme chez Nicolet !»
« Oh, il y en a 7 ou 8 très grands qui sont dans le grenier et qu'on a gardé à cause des cadres, des gilets. »«
Allons les voir, » fit l'artiste que Maxence conduisit dans le grenier. Joseph redescendit enthousiasmé. Max dit un mot à l'oreille de la rabouilleuse qui prit le bonhomme Rouget dans l'embrasure de la croisée. Et Joseph entendit cette phrase dite à voix basse, mais de manière à ce qu'elle ne fût pas perdue pour lui.
« Votre neveu est peintre. Vous ne ferez rien de ses tableaux. Soyez donc gentil pour lui. Donnez-les-lui. »
« Il paraît, » dit le bonhomme qui s'appuya sur le bras de Flore pour venir à l'endroit où se trouvait son neveu en extase devant un albanais, « Il paraît que tu es peintre. »«
Oh, je ne suis encore qu'un rapin, » dit Joseph.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Flore.
« Un commerçant, » répondit Joseph.
« Eh bien, » dit Jean-Jacques, « si ces tableaux peuvent te servir à quelque chose dans ton état, je te les donne. Mais sans les cadres. Oh, les cadres sont dorés et puis ils sont drôles. J'y mettrai.
Mais parbleu, mon oncle, s'écria Joseph enchanté, vous y mettrez les copies que je vous enverrai qui seront de la même dimension.
Mais cela vous prendra du temps, il vous faudra des toiles, des couleurs, dit Flore. Vous dépenserez de l'argent.
Voyons, père Rouget, offrez à votre neveu 100 francs par tableau, vous en avez là 27.
Il y en a, je crois, 11 dans le grenier qui sont énormes et qui doivent y être payés double.
Mettez pour le tout 4 000 francs.
Oui, votre oncle peut bien vous payer les copies 4 000 francs puisqu'il garde les cadres.
« Enfin, il vous faudra des cadres, et on dit que les cadres valent plus que les tableaux. Il y a de l'or. »«
Dites donc, monsieur, » reprit Flore en remuant le bras du bonhomme, « hein ?
C'est pas cher. Votre neveu vous fera payer 4 000 francs des tableaux tout neufs, à la place de vos vieux. »«
C'est, » lui dit-elle à l'oreille, « une manière honnête de lui donner 4 000 francs. » Il ne me paraît pas très calé.
Eh bien, mon neveu, je te paierai 4 000 francs pour tes copies.
Non, dit Joseph. 4 000 francs et les tableaux, c'est trop. Non, car voyez-vous, les tableaux ont de la valeur.
Mais acceptez donc, Godiche, lui dit Flore, puisque c'est votre oncle.
« Eh bien, j'accepte, » dit Joseph, étourdi de l'affaire qu'il venait de faire, car il reconnaissait un tableau du Pérugin. Ainsi, l'artiste eut-il un air joyeux en sortant et en donnant le bras à la rabouilleuse, ce qui servit admirablement les dessins de Maxence. Ni Flore, ni Rouget, ni Max, ni personne à Issoudun ne pouvaient connaître la valeur des tableaux. Et le rusé Max crut avoir acheté pour une bagatelle le triomphe de Flore qui se promena très orgueilleusement au bras du neveu de son maître en bonne intelligence avec lui devant toute la ville ébahie. On se mit aux portes pour voir le triomphe de la rabouilleuse sur la famille. Ce fait exorbitant fit une sensation profonde sur laquelle Max comptait. Aussi, quand l'oncle et le neveu rentrèrent vers les 5 heures, on ne parlait dans tous les ménages que de l'accord parfait de Max et de Flore avec le neveu du père Rouget. Enfin, l'anecdote du cadeau des tableaux et des 4 000 francs circulait déjà. Le dîner, auquel assista Lousteau, l'un des juges du tribunal et le maire d'Issoudun, fut splendide. Ce fut d'un de ces dîners de province qui durent 5 heures.
Les vins les plus exquis animèrent la conversation. Au dessert, à 9 heures, le peintre, assis entre Flore et Max, vis-à-vis de son oncle, était devenu quasi camarade avec l'officier, qu'il trouvait le meilleur enfant de la terre. Joseph revint à 11 heures, à peu près gris. Quant au bonhomme Rouget, Kouski le porta dans son lit ivre-mort. Il avait mangé comme un acteur forain et bu comme les sables du désert. « Eh bien, » dit Max, qui resta seul à minuit avec Flore, « ceci ne vaut-il pas mieux que de leur faire la moue ? Les bridaux seront bien reçus, ils auront de petits cadeaux et, comblés de faveurs, ils ne pourront que chanter nos louanges. Ils s'en iront bien tranquilles en nous laissant tranquilles aussi. Demain matin, nous deux, Kouski, nous défrons toutes ces toiles, nous les enverrons au peintre pour qu'il les ait à son réveil. Nous mettrons les cadres au grenier et nous renouvellerons la tenture de la salle en y tentant de ces papiers vernis où il y a des scènes de Télémaque, comme j'en ai vu chez Monsieur Mouilleron. » « Tiens, oui, ce sera bien plus joli !» s'écria Flore. Le lendemain, Joseph ne s'éveilla pas avant midi. De son lit, il aperçut les toiles mises les unes sur les autres et apportées sans qu'il eût rien entendu. Pendant qu'il examinait de nouveau les tableaux et qu'il y reconnaissait des chefs-d'œuvre en étudiant la manière des peintres et recherchant leurs signatures, sa mère était allée remercier son frère et le voir, poussé par le vieil Hochon, qui, sachant toutes les sottises commises la veille par le peintre, désespérait de la cause des bridaux.
Vous avez pour adversaire de fine bouche. Dans toute ma vie, je n'ai pas vu pareille tenue à celle de ce soldat. Oh, il paraît que la guerre forme les jeunes gens. Joseph s'est laissé pincer. Il s'est promené donnant le bras à la rabouilleuse. On lui a sans doute fermé la bouche avec du vin, de méchantes toiles, 4 000 francs. Votre artiste n'a pas coûté cher à Maxence.
Le perspicace vieillard avait tracé la conduite à tenir à la filleule de sa femme, en lui disant d'entrer dans les idées de Maxence et de cajoler Flore, afin d'arriver à une espèce d'intimité avec elle pour obtenir de petits moments d'entretien avec Jean-Jacques. Madame Bridau fut reçue à merveille par son frère à qui Flore avait fait sa leçon. Le vieillard était au lit, malade des excès de la veille. Comme dans les premiers moments, Agathe ne pouvait pas aborder de questions sérieuses. Alors Max avait jugé convenable et magnanime de laisser seuls le frère et la sœur. Ce fut un calcul juste. La pauvre Agathe trouva son frère si mal qu'elle ne voulut pas le priver des soins de Madame Brasier. « Je veux d'ailleurs, dit-elle au vieux garçon, connaître une personne à qui je suis redevable du bonheur de mon frère. » Ces paroles firent un plaisir évident au bonhomme, qui sonna pour demander Madame Brasier. Flore n'était pas loin, comme on peut le penser. Les deux antagonistes femelles se saluèrent. La rabouilleuse déploya les soins de la plus servile, de la plus attentive tendresse. Elle trouva que monsieur avait la tête trop bas. Elle replaça les oreillers. Elle fut comme une épouse d'hier. Aussi le vieux garçon eut-il une expansion de sensibilité.
« Nous vous devons, mademoiselle, dit Agathe, beaucoup de reconnaissance pour les marques d'attachement que vous avez données à mon frère depuis si longtemps et pour la manière dont vous veillez à son bonheur. »
« C'est vrai, ma chère Agathe, dit le bonhomme. Elle m'a fait connaître le bonheur, et c'est d'ailleurs une femme pleine d'excellentes qualités.
Ben aussi, mon frère,
Ne seriez-vous trop en récompensé, mademoiselle? Vous auriez dû en faire votre femme.
Oui, je suis trop pieuse pour ne pas souhaiter de vous voir obéir aux préceptes de la religion.
Vous seriez l'un et l'autre plus tranquille en ne vous mettant pas en guerre avec les lois et la morale.
Je suis venu, mon frère, vous demander secours au milieu d'une grande affliction, mais ne croyez point que nous pensions à vous faire la moindre observation sur la manière dont vous disposerez de votre fortune.
Madame, dit Flore, nous savons que monsieur votre père fut injuste envers vous. Monsieur votre frère peut vous le dire, fit-elle en regardant fixement sa voisine. Les seules querelles que nous avons eues, c'est à votre sujet. Je soutiens, monsieur, qu'il vous doit la part de fortune dont vous a fait part de vos bienfaiteurs, car il a été mon bienfaiteur, votre père.
Et elle prit un son larmoyant. M'en souviendrai toujours.
Mais votre frère, madame, a entendu raison.
Oui, dit le bonhomme Rouget. Quand je ferai mon testament, vous ne serez pas oublié.
Oh, ne parlons point de tout ceci, mon frère. Vous ne connaissez pas encore quel est mon caractère.
D'après ce début, on imaginera facilement comment se passa cette première visite. Rouget invita sa sœur à dîner pour le surlendemain.